Magie africaine par Alfred Edward Woodley Mason. Dès qu'eut pris fin la saison des pluies, M. Collins André, compagnon de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, partit pour sa tournée habituelle d'inspection en pays baroutsé. Il aimait ses départs, qu'il arrachait pour plusieurs mois à la routine administrative. Mais dans cette province couverte de forêts, son contentement n'était point partagé de tout le monde. Il y avait d'autres gens que les malfaiteurs pour soupirer d'ennui lorsqu'apparaissait la tête de sa caravane, et de soulagement quand ils envoyaient la queue. Grand, mince, laid, cocasse visage de singe, la voix grinçante comme une mécanique rouillée, il n'avait qu'à se montrer chez les colons pour enfiévrer tout un domaine solitaire. Il crépitait comme un feu d'artifice. Il était à la fois la jovialité d'une fête académique à Oxford, la gaieté bruyante d'Eton, de Harrow, d'Ascot, l'animation d'un bal de cour. Pour les femmes, il représentait le romanesque et l'aventure, la voix murmurante du passé. Pour les maris, il n'était qu'un fâcheux et qu'un braillard. Il s'affirmait trop comme le patron et mettait trop d'arrogance, à proclamer que rien, hors le souci de sa carrière, ne devait faire obstacle à son plaisir. Cette fois, il emmenait avec lui deux invités, un certain major George Hardacre et sa femme Carmel. Il les avait trouvés en pleine détresse, à deux jours de marche de la résidence, dans une ferme à fruits qui ne leur avait jamais donné que des mécomptes. « Nous manquions d'un capital suffisant et de l'expérience nécessaire », lui avait dit Hardacre, en tortillant d'un air sombre sa moustache. Hardacre était un officier de cavalerie retiré de l'armée, âgé de 36 ans, épais, obtus et moins fait pour un travail de pionnier que personne au monde. Puis, avait ajouté Carmel, nous n'avions pas en nous-mêmes les ressources qui, peut-être, eussent suppléé aux défauts du reste. Il y avait dans les yeux de la jeune femme, tandis qu'elle parlait, une lueur que Collins André fut prompt à saisir. Elle aussi était grande et mince, 28 ans, belle en somme, les cheveux, les yeux noirs, les lèvres pleines. Collins André se sentit défié. « Vous allez, dit-il, partir d'ici tout de suite. » Ce n'est point parmi les ruines de vos espérances que vous verriez les choses sous leurs vraies proportions. Venez avec moi. Vous aurez le loisir de dresser vos plans, et je me réjouirai de votre compagnie. » Ils fermèrent leurs portes et le suivirent. Collins André ne précipitait rien. Il ne demandait qu'à laisser le contraste s'établir, se fortifier, entre l'efficacité toute simple de ses actes et la morose impéritie de Hardacre. Il allait ou l'appelait, par tout le district, sa fonction d'administrateur, et pendant une semaine, ils ne viguèrent ses compagnons qu'après la journée terminée. Un soir, enfin, Hardacre baria le thème de ses radotages. « Voyez-vous, dit-il, je me trouve impardonnable. J'ai mal agi envers Carmel. Vous le comprendrez de vous-même, Sandré. Le peu d'argent qu'elle avait, je l'ai engagé avec le mien dans cette ferme. Il me semblait que c'était le genre de choses à entreprendre après la guerre. Tenter, n'est-ce pas, des terres nouvelles. Mais je n'étais pas né pour ça. » Carmel se leva soudain, visiblement exaspérée. « À quoi bon geindre ? » s'écria-t-elle. Ils étaient assis tous trois sur des chaises de camp autour d'un feu, en plein air. Derrière eux s'élevaient les cases où ils dormaient. Non loin de là, les hommes qui formaient la police de Sandry bavardaient autour d'un autre feu avec les domestiques. Carmel s'éloigna de quelques pas. « Laissons cela, » reprit-elle. « Nous nous gâterions cette belle nuit. » Sandry se leva vivement pour la rejoindre. « Je veux, lui dit-il, vous offrir un spectacle. » Il la conduisit par la brousse jusqu'à une petite hauteur. Comme ils en gravissaient la pente, un bruit leur frappa les oreilles. C'était un grondement sourd et qui grossissait peu à peu comme celui d'énormes machines souterraines. Arrivés au sommet, ils s'arrêtèrent. La forêt, une clairière, des buissons s'étalaient à leurs pieds sous une lune d'argent. « C'est magique. Écoutez, » fit-elle. Quelque part dans l'étendue de la forêt, un babouin mâchonnait son aboi. « Vous êtes ici au pays de la magie, » répliqua Sandry. « Voyez. » Très loin, dans le sud-est, au-dessus d'un creux, un brouillard blanc pendait, se tordait, changeait sans cesse de forme, tel un vaste dais secoué par la brise. De temps à autre, un de ses coins jetait un éclair, comme s'il eût découvert un bout de broderie reluisante. « L'écume des chutes, » dit-il. Un moment, ils restèrent en contemplation, cloués là par le sortilège du paysage. Et tout d'un coup, « Ah !» s'écria Carmel, « s'il pouvait une fois, une seule, se tourner vers moi, me dire que je ne lui sers de rien, Quand on lui vaudrait une chiffumine, alors je serais pleinement heureuse. Que m'importerait qu'il me donne à des gifles, mais il est toujours sur ses genoux, toujours. » Elle-même, Colin Sandry, le lui a fait un bon droit remarquer. Elle était à la limite de ses forces. Le bel amoureux que ce dévot rongeait par le remords. Pour une femme jeune et belle, quand toutes ses chances étaient en ruine, pouvait-il y avoir un être plus exaspérant? Ce qu'elle réclamait, c'était le courage, la résolution, un plan défini en vue de redresser la fortune. Et elle n'obtenait que des pleurnicheries. « Comment cela est-il arrivé ?» lui demanda Colin Sandry. « Notre mariage ?» Elle le regarda. Elle songeait. Elle ne tenait pas à se dissimuler devant lui, en donnant elle aussi dans les jérémiades. Et d'autre part, elle ne voulait pas qu'il la prît pour une sotte, une tête à l'évent, capable de s'être laissée éblouir par l'éclat d'un uniforme. Comme il faisait demi-tour pour s'en revenir au champ, elle continua, pesant ses mots. « Reportez-vous au jour de la guerre. Et sans doute, vous comprendrez tout. J'avais 18 ans. Les gens s'expatriaient à l'envi. C'était un emballement général pour les terres lointaines. Nous subîmes l'esprit du temps. Nous vîmes en Afrique. Une Angleterre nouvelle, un monde nouveau. » Elle rit, moitié de mépris, moitié de regret, au souvenir de ses anciens enthousiasmes. Soudain, vers le milieu de la descente, elle attrapa Sandry par le bras. « Regardez, » fit-elle. « Il y a déjà un moment que je regarde, » répondit-il d'un ton bizarre. « George, là, près du feu. » « Je n'ai pas attendu qu'il fût près du feu. » La pipe aux lèvres, penchée sur sa chaise de camp, George Hardacre tripotait les bois du feu, tantôt poussant une branche au cœur du brasier, tantôt en redressant une autre. Et il apportait à ce travail la même application méthodique que si la petite pyramide de flammes et de fumée eût été l'affaire capitale de sa vie. « Ne pouvez-vous rien pour nous, Colin ?» s'écria passionnément Carmel. « Si, » répondit-il. « Je puis quelque chose. Je vous l'ai dit, c'est ici le pays de la magie. » Au moment qu'ils approchaient du feu, Hardacre retira sa pipe de sa bouche. « Savez-vous, » dit-il, « j'étais en train de penser. Je pensais que, puisque nous devons demain nous mettre en marche de bonne heure, il sera peut-être temps, hein, d'aller faire un somme. » Carmel se retourna brusquement pour cacher sa figure, et Colin Sandry répondit « Rien ne presse. Tout réfléchi, nous ne partirons que dans la journée. » Il s'est produit tout à l'heure un petit événement. Je croyais vous en avoir parlé à table, j'ai oublié. Il traversa la clairière pour aller parler au chef de sa police. Apparemment, il ne lui avait pas encore notifié le changement de programme. Carmel se demandait, avec un soupçon d'angoisse, si le petit événement auquel il avait fait allusion ne s'était pas produit trop tard pour qu'il pût leur en parler au dîner. Elle observa inquiètement tandis qu'il revenait près du feu. « Demain, lui dit-il, « je vous présenterai la femme la plus remarquable qu'il y ait, vous excepté, au nord du Zambèze. » Le lendemain matin, ils firent à cheval tous les trois un trajet d'un demi-mille pour descendre à la porte d'une palissade qui entourait un village indigène d'une trentaine de cases. Devant la plus importante, une jeune femme était assise sur une natte. Rondouillette, noire et lustrée comme à haute forme neuf, elle attendait ses visiteurs avec dignité. Colin Sandry s'avança vers elle et la saluant deux fois. « N'Gamba grand chef, » dit-il, lui parlant le seul langage qu'elle dut comprendre. « Moi, juge. » Il se frappa la poitrine. « Je dépose entre tes mains une plainte. » C'en fut assez pour que N'Gamba perdît sa dignité. Elle claqua joyeusement des mains. Ses joues se creusèrent de fossettes enfantines. Bien entendu, elle était N'Gamba. D'un simple froncement de sourcils, elle gouvernait des familles barotsées. Mais voilà que le haut magistrat, dont la voix grinçait comme une chaîne mal entretenue, venait lui demander son assistance. Quoi de mieux fait pour la ravir? Elle entra sur le champ dans le propos, jetant un regard malicieux à la grande femme mince qui portait au doigt l'anneau de mariage. Elle répondit d'une voix posée, « N'Gamba va faire tout de suite, mémé palabre. » Colin Sandry ne lui permit pas de poursuivre. « Retiens ta langue, N'Gamba. » N'Gamba se mit doucement à rire. Sandry, cependant, s'essuyait le front avec son mouchoir. « La petite diablesse, elle va vraiment trop vite. » Les mémés palabres ou palabres des mères réglaient les questions d'indemnité dans les cas de divorce, et l'interrogatoire des parties était en règle générale d'une liberté toute primitive. « Laissons là les mémés palabres, » reprit Sandry sèchement, et toute joie s'éteignit sur le visage de N'Gamba, cependant que Sandry continuait. « Argent, palabre, maintenant. » Immobile, la face inexpressive, les yeux baissés, N'Gamba attendait. Et Carmel Hardacre attendait aussi, curieusement ému du changement si total, si rapide, qui avait assombri l'entrevue. Quelque chose de grave allait se proposer, qu'il aurait à refuser peut-être, quelque chose d'inconnu et de troublant. Depuis 3 jours, Ngamba, je campe dans ce village et circule pour mes affaires. 1, 2, 3 jours, compta Ngamba en acquiesçant de la tête. Au cours de ces 3 jours, une somme de 85 livres appartenant à mon gouvernement a disparu. Je veux qu'elle se retrouve. Sandri était là fort à son aise, tant soit peu dédaigneux, la main gauche plongée dans la poche de sa culotte, la droite tenant, dressée de biais contre sa jambe, sa houssine. Et Carmel eut bientôt fait de reconnaître que si vraiment elle assistait à la lutte de deux volontés, celle de l'homme était la plus forte, car ce fut Ngamba et non pas Sandri qui parla. « Mes gens, dit-elle, peuvent voler des petites choses, non pas des grandes. » Son visage n'était plus qu'une invocation. Il suppliait Sandri de se tenir satisfait de retirer sa plainte. Mais Sandri hocha la tête. « Je ne me satisfais pas à si bon compte, Ngamba. Je me refuse à perdre 85 souverains de mon gouvernement, car si je les perds, je les rembourse. » Dans le silence qui suivit, Carmel eut encore un sentiment de malaise. Il lui sembla que si les yeux de Ngamba demeuraient attachés sur Colin Sandri, s'il n'était toujours qu'une imploration, une supplication, néanmoins cette imploration, cette supplication, se tournait vers elle, avec une éloquence irrésistible. Elle essayait de se raisonner. L'affaire ne la concernait pas. Elle ne pouvait se défendre de quelque indignation à s'y voir mêlée, à se sentir entraînée dans le parti de Ngamba pour qu'il n'y fût pas donné suite. En dépit d'elle-même, elle fit un pas vers Sandri. Mais avant qu'elle eût ouvert la bouche, il la regarda, et l'arrogance de sa mine dissipa le charme qui pesait sur elle. Alors Sandri se retourna vers Ngamba. « Écoute bien, lui dit-il, je pars demain pour mon travail. Mais je reviendrai dans 7 jours. Il faut que d'ici là tu aies retrouvé l'argent et le voleur. C'est un ordre. » De même qu'il avait relâché la contrainte exercée sur Carmel Hardacre, ainsi parut-il avoir brisé la résistance de Ngamba. La supplication s'effaça de son visage, comme s'en était déjà effacée la gaieté. Mais ce ne fut point la soumission qui la remplaça. Au contraire, sans qu'il survînt chez Ngamba aucun changement physique, Carmel eut l'impression que la petite négresse potelée devenait une créature puissante, formidable. « Moi qui la prenais au comique, » pensa-t-elle tout étonnée. Elle la voyait maintenant comme la sorcière immémoriale, la magicienne de toutes les races, qui porte, fermée à clé derrière ses yeux, les secrets de l'avenir. Ce qui était en cause, désormais, ce n'était plus le vol de 85 souverains, mais quelque chose de bien autrement grave, et qui, pour Carmel, échappait aux conjectures. Ngamba allongea la main, et d'une voix douce, singulièrement atone, elle dit « Basse, il en sera selon ta volonté. Je désire seulement… » « Que je ne m'occupe plus de rien, » dit Sandri. « Bah, s'il y a comme ça des choses, je crois que c'est Dieu qu'elles arrivent. » Sandri s'esclaffa. « Réponse de l'enfant à qui l'on demande où sont passées les pommes. »« Non, » protesta Carmel, « ce n'était pas une enfant qui vous faisait cette réponse. »« À présent, du moins, c'en est une, » ricana George Hardacre. Pour la première fois qu'il intervenait dans le débat, il parut avoir raison. Car à peine tous trois avaient-ils tourné le dos pour regagner la porte de la palissade, que des cris aigus et répétés les suivirent. Roulant le corps d'un côté à l'autre sur sa natte, battant le sol du plat de ses mains, Ngamba sanglotait comme une petite enfant au paroxysme de la colère. Sandri, jetant derrière lui un coup d'œil, sourit. « Bon, elle me retrouvera le voleur et l'argent, » fit-il avec une entière assurance. « Ils meurent tous de peur devant elle. « Pourquoi ?» demanda Carmel. Parce qu'elle est la plus grande faiseuse de pluie qu'il y ait dans le pays. Et pour des gens qui vivent de maïs, une juste mesure de pluie en temps voulu est chose d'importance. Mais, dit Carmel, comment s'y prend-elle pour faire la pluie? Ça, par exemple, c'est son secret, comme c'était avant elle celui de son père. À quels moyens elle a recours, et s'il est bien positif qu'elle fasse quelque chose, je l'ignore. Je sais seulement qu'une fois, dans un accès de rage, elle prévint les barotsés qu'il n'aurait pas de pluie, et ils n'en eurent pas. Et quand là-dessus ils lui représentèrent qu'il mourrait de faim, prise d'une rage plus folle, elle les avertit qu'elle ferait tomber sur autant de pluie que leur maïs serait emporté. Ce qui arriva. Une grosse hilarité secoua George Hardacre. « Oui, mon vieux, oui, un vrai conte de fées. À Londres, on appellerait ça un conte de fées, pas de doute, répliqua Sandry d'un ton pointu. Mais c'est là de ces choses qui se voient en Afrique. Carmel eut au cœur de nouveau la pointe d'une angoisse. Elle, en tout cas, n'avait pas vécu au nord du Zambèze, sans savoir qu'il y a par là des mystères logiquement insolubles. Et regardant le magistrat, elle se demandait si le pays n'avait pas eu sur lui quelque prise, s'il ne l'avait pas initié à tel ou tel de ses secrets ténébreux. On devait déjeuner de bonne heure, puis lever le camp. Carmel, son bagage lestement bouclé, passa dans la case qui leur servait de messe. Elle profita de ce que Sandry s'y trouvait seul pour lui demander « Qu'est-ce donc qu'entendait Ngamba paru, Mémé Palabre ?» Colin Sandry étouffa une envie de rire. Elle entendait une palabre de femme qui déciderait du nombre de bœufs que je devrais payer pour indemnité à votre mari. « Je comprends. » Elle baissa la tête. Naturellement, la question ne se pose pas. « Non, elle ne se pose pas, » répliqua Sandry d'un air maussade, en hochant le front. Il semblait que le mot « encore » lui resta au bout de la langue. Carmel recula comme s'il l'avait prononcé. Elle ne lui avait pas cédé, encore, mais elle n'était pas certaine de n'y pas venir bientôt. La vitalité de cet homme la soulevait de terre, ou du moins la dressait sur la pointe des pieds. À chaque heure de chaque jour, des comparaisons s'imposaient à elle. Dans cet instant même, par la porte de la case, son regard allait à la case voisine, où George Hardacre faisait ses paquets. Le moindre inattendu pouvait la pousser dans un sens ou dans l'autre. Mais elle s'avisait d'une inimitié bizarre envers Colin Sandry. Elle ressentait pour lui de l'antipathie alors qu'elle l'aimait presque. C'est l'antipathie qui lui fit dire « Êtes-vous bien certain qu'on vous ait volé cet argent ?» La figure de Colin Sandry s'enflamma. « Mais cela va de soi » répliqua-t-il avec une indignation évidente. « Je ne suis pas homme à commettre une bévue en pareille matière. Le voleur n'avait que le choix de l'occasion. Vous et Hardacre étiez à la chasse. Je courais le pays avec ma police. Pas un jour depuis notre arrivée où le camp ne soit à peu près désert. » Carmel en convint. « C'est vrai, » dit-elle. « Voici George. »« Et voilà le déjeuner, » dit Sandry. Ils revinrent le septième jour. Durant toute la semaine, tandis que Hardacre s'enfermait dans un mutisme de plus en plus sombre, Carmel et Colin Sandry, par une sorte d'accord tacite, avaient écarté de leurs propos toute allusion au vol. Mais Carmel ne l'oubliait pas. Et de réchef, aujourd'hui, elle éprouvait la conviction inquiétante, inexplicable, qu'ils étaient tous trois impliqués dans une affaire dont l'importance dépassait de beaucoup celle d'une question d'argent. Un malaise fébrile l'agitait, auquel n'échappait pas non plus Colin Sandry. Il avait depuis un moment expédié un homme au village pour annoncer son retour à Ngamba, quand soudain, il leva la tête d'un air qui réclamait le silence. « Écoutez !» Au loin résonnait un tam-tam. Hardacre haussa les épaules. « Nous avons, dit-il, entendu cela maintes fois et en maints endroits au cours de ces dernières semaines. « Je le sais, » répondit Sandry. Mais il ne continuait pas moins d'écouter avidement. Après le dîner, tous les trois sortirent. À un demi-mille de distance, les feux du village empourpraient le ciel. C'était de là que venaient les battements du tam-tam, plus fort maintenant, et d'un rythme sans cesse varié, comme s'il transmettait un message par le système d'un code. Parfois, les coups s'espaçaient, monotones. Parfois, ils se suivaient, se pressaient comme les étincelles jaillies d'une enclume. Et parfois, ils se fondaient en un long roulement, comme un appel ou un signal d'alerte. Colin Sandry écoutait, la tête inclinée, le visage sourcilleux. « À quelle distance portent les sons ?» chuchota Carmel. « À des milles, la nuit en est pleine. » Et Colin Sandry s'efforça de rire. Je me suis demandé un instant si Ngamba avait l'intention de me causer demain quelque ennui. Mais elle n'oserait pas. Non, assurément, elle n'oserait pas. Le fait est que Ngamba ne ménageait à Colin Sandry aucun des ennuis qu'il aurait pu craindre. On n'eût pas rêvé à sembler plus sage, plus paisible que celle qui, le lendemain, attendait au village le magistrat et ses amis. Trop sage, en vérité, trop paisible, car elle était frappée de terreur. Spectacle incompréhensible pour Carmel. Devant elle se déroulait une sorte de cérémonie religieuse ou de scène théâtrale qui tenait les assistants fascinés et qui parut n'être pas au goût de Colin Sandry, car elle entendait grommeler une malédiction contre Ngamba, puis ajouter entre ses dents « Soit, que tout s'accomplisse !» La tribu était assise dans un demi-cercle dont Ngamba occupait le centre, et tous regardaient un nid de vieillards se trémousser grotesquement dans l'espace libre. Il le regardait comme s'il pensait que la mort pût surgir au moindre de ses pas. Une peau de léopard lui saignait les reins. Des haillons malpropres festonnaient ses bras et ses chevilles. Des dents de requin pendaient en chapelet à son cou. Des broches d'ivoire retenaient ses cheveux roulés en tresse au sommet de sa tête. « Qu'est-ce que ce pitre ?» demanda Hardacre. Mais Carmel avait su instantanément à quoi s'en tenir. De la place où elle était, avec ses compagnons, à l'une des extrémités du demi-cercle, rien ne gênait sa vue. La frayeur qui marquait la face de tous ces sauvages accroupis non seulement l'aidait à comprendre, mais lui expliquait l'irritation de Colin Saint-André. N'Gamba avait fait appel à un sorcier pour découvrir l'auteur du vol. Le vieillard interrompit sa danse. Voûté, décrépit, maigre comme un babouin, il s'assit, les jambes croisées, retira quatre os de sa calebasse, les lança en l'air, les reprit au vol comme un jongleur. Puis, les ayant disposés devant lui en losange, il se mit à les déplacer successivement, de façon que la flèche du losange visa tantôt un assistant et tantôt un autre. Tout en manipulant ainsi les os, il bourdonnait une vieille cantilène plaintive où se traduisait la mélancolie et le désespoir des siècles. « On ne peut plus curieux, » fit Hardacre. « Chut, vous !» siffla Colin Saint-André. Il les connaissait bien, lui, ces barotsés que Hardacre ignorait. Du premier au dernier, une peur folle les tenait là sous son charme. Que le charme se remplit, il suffirait de rien pour le rompre, qu'adviendrait-il? Quelle frénésie s'emparerait d'eux? Un massacre pouvait s'en suivre. Déjà un homme se soulevait de terre, mais poussant un gémissement, il retomba sur lui-même, comme s'il redoutait également et de rester et de fuir. Le sorcier détacha une corne de buffle qu'il portait nouée aux épaules. D'un panier posé à son côté, il tira d'abord une cuillère rouillée, puis le plus invraisemblable des objets qui puissent entrer dans un attirail de sorcellerie, un vieux pot à marmelade. Et cela eût été risible sans doute partout ailleurs que dans une forêt d'Afrique, au milieu d'une tribu sauvage en proie à l'épouvante. Ici, ce petit détail vulgaire ajoutait au démoniaque de l'exhibition un cachet de macabre. Carmel connut, un petit mouvement de Saint-André, que le grotesque approchait de son couronnement. Par une sorte de correspondance avec la stupeur de cette noire assemblée, il lui sembla que tout s'arrêtait en elle, hors les battements de son cœur. « Nous y voilà, » dit Colin Saint-André à voix basse. Le sorcier se mit debout, balança le corps, s'élança brusquement. Dans une course d'une vitesse horrible, il gagna l'extrémité du demi-cercle opposé à Carmel, et ce qu'elle vit la bouleversa au point que ses joues se vidèrent de son sang. Il s'était arrêté devant le premier noir de la rangée, et lui tendit sa corne. L'homme, tremblant de tous les membres, claquant des mâchoires, la reçut avec une humble courbette. Il la tint un moment dans l'air sur ses pommes, tandis que le sorcier prononçait au-dessus de lui des paroles confuses, entrecoupées de plaintes. L'espace d'une ou deux secondes, Carmel eut l'affreuse illusion qu'elle regardait complaisamment parodier le mystère sublime de sa foi. Illusion brève. La cérémonie avait pour tous ses participants une réalité trop effroyable. Pour Carmel aussi, elle prit la force contraignante du réel. Les siècles reculaient derrière elle. Elle assistait à l'une de ces épreuves judiciaires qui se répétaient, sous le soleil, dans le calme de cette clairière, depuis bien avant que les Babyloniens ne descendissent vers le sud à la conquête du diamant et de l'or. Et l'épreuve ne pouvait pas ne pas réussir. Carmel en avait la certitude. Elle regardait le hideux magicien, armé de sa corne, passer, marmottant et se penchant d'un homme à un autre. Elle ne doutait pas que le moment ne vînt où l'un d'eux se lèverait, incapable d'endurer plus longtemps ce supplice, lancerait les bras au ciel et confesserait sa faute. Elle attendait, les poings contractés, les lèvres entrouvertes. Cependant, tout le long du demi-cercle, le sorcier poursuivait en vain ses pratiques. Il arriva sans plus de succès au dernier de la tribu. Il resta là, figure maléfique, vision de cauchemar. Ses petits yeux brillaient, tout son être desséché respirait la menace et l'injure. « Voyons cette corne !» s'écria une voix près de Carmel. Étrange voix, commandée par une force intérieure, Carmel se tourna vers son mari. C'était lui qui avait parlé. Il avait l'apparence d'un homme endormi du sommeil hypnotique. Carmel regarda N'Gamba. N'Gamba, assise par terre, la tête inclinée sur la poitrine, les yeux voilés, ne bougeait pas plus qu'une statue. Carmel se rappela tout à coup le pouvoir qu'avait exercé sur elle la petite négresse. Elle n'y eut pas résisté sans l'intervention de Colin Saint-André. Évidemment, il allait intervenir encore, et elle ramena sur lui des yeux pleins de confiance. Mais il était renfrogné, irrité, il était alarmé. Entre la magicienne à qui l'Afrique avait légué son savoir et l'homme blanc venu de l'Ouest, le conflit tournait au désavantage du blanc. Carmel vit son mari tendre les mains. Elle voulut crier, Sa gorge refusa d'émettre un son. Et il ne fallut pas même une seconde pour que se produise l'infâme, l'odieuse catastrophe. Au moment que Hardacre s'en emparait, la corne sauta et se tortilla dans ses mains. Colin n'eut pas le temps de le retenir. Déjà, il était en plein demi-cercle, se débattant contre une corne de buffle lâchée dans l'espace. Jamais ne s'était vu, probablement, ignominie pareille. Hardacre gambadait dans tous les sens, tiré comme une marionnette. Carmel s'aperçut à peine que les Noirs se dressaient en sursaut, hurlant, riant d'échapper à leurs craintes. Cependant que N'Gamba, la tête toujours baissée, les bras croisés, gardait sa posture d'idole. Mais elle entendit Colin Sandry élever une voix furieuse. Elle le vit s'approcher de N'Gamba et lui jeter des mots véhéments. Elle ne reprit connaissance d'elle-même que hors de la palissade. Un homme de la police lui présentait l'étrier. Ils s'en revinrent au camp sans articuler une parole. Sitôt qu'ils y furent arrivés, Hardacre dit « Qu'on fouille ma case !» Colin Sandry écarta d'un geste cette idée. Tout ça n'était que comédie. Sans doute, ils ont des pouvoirs étonnants, ces sorciers, des pouvoirs incompréhensibles. Mais N'Gamba avait fait la leçon à l'homme. « Par Dieu, elle me le paiera !» Et glissant son bras sous le bras de Hardacre, « N'y pensez plus, nous serons loin d'ici demain matin. » Mais Hardacre se dégagea. « J'insiste !» Sa pâleur sous le hâle lui donnait une mine de moribond. « Ah !» fit Colin Sandry, « je donnerais 10 fois 85 livres pour que rien de ceci ne fût arrivé. » Le soir, tandis qu'autour du feu de camp, Hardacre et lui fumaient en silence, le chef de la police avança, portant un sac de souverain. On avait fouillé la case, on y avait déterré les pièces d'or. Le silence continua de régner autour du feu, comme dans une cour de justice après un verdict redoutable. Une tourterelle, toute proche, roucoula. Un singe au loin marmonna, et Colin agita le sac où les pièces tintèrent. S'il avait cherché le petit moyen qui dut entre lui et George Hardacre rendre la position de Carmel tout à fait nette, il n'en aurait pu imaginer de plus décisif. Il avait recouvré son argent, mais Carmel, à présent, le détestait. « Je ne vous trompais pas, » dit-il. « N'Gamba nous a joué un tour de sa façon. Elle avait trouvé le voleur, elle était prévenue de notre retour, elle a fait enfouir l'argent. » J'éclaircirai la chose à ma prochaine tournée. En attendant, il n'y a pas de motif. » Il parlait avec générosité, bien que, vraisemblablement, il sut le fin mot de l'histoire. Mais Hardacre ne le laissa pas continuer. Il s'est élevé, il se tirait la moustache. Même à 7 minutes, il ne parvenait pas à faire impression. Il n'inquiéta ni sa femme, ni Colin Sandry. Il dit simplement, d'une voix morne, « J'en ai assez. » Après quoi, tirant de sa poche un revolver, il se fit sauter la cervelle. Son grand corps s'abattit, tête en avant, dans le brasier. Par bonheur, Carmel Hardacre s'évanouit. L'affaire, bien entendu, ne finit pas là. Peu à peu, les faits se coordonnèrent. Enfin, N'Gamba parla. Sandry lui avait envoyé un message, la convoquant à un certain endroit de la forêt 2 jours avant qu'il ne vînt au camp près du village. Il était allé au rendez-vous tout seul, à cheval et en grande hâte. Il avait demandé à N'Gamba de faire retomber sur Hardacre le vol de l'argent. N'Gamba n'encourait point de blâme. L'argent ne pouvait être retrouvé que dans la case de Hardacre. Elle pleura, supplia et finalement céda. Mais elle réclama le choix des moyens. Elle manda son médecin sorcier. Elle-même usa de ses puissances obscures. Qu'on appelle cela comme on voudra, magie, sorcellerie, hypnotisme, mieux vaut peut-être s'en rapporter là-dessus à l'expérience de Colin Sandry, et dire avec lui que ce qui est conte de fait à Londres arrive en Afrique. D'ailleurs, N'Gamba ne cessa d'affirmer qu'elle n'eut rien contre Hardacre s'il avait été innocent. La machination de Sandry ne lui profita pas. Il perdit Carmel à l'instant où il fit teinter le sac. De surcroît, il perdit sa situation lorsque N'Gamba eut raconté le rendez-vous de la forêt. Ensuite vinrent pour lui des jours difficiles. Quelques années plus tard, au cours d'une misérable réception qu'il donnait dans ce logis derrière Bayswater Road, on s'avisa de lui demander la vérité sur son affaire. Il était à moitié ivre. « Hardacre avait bien volé l'argent, » répondit-il. « Je l'avais vu, d'une hauteur voisine que je redescendais dans la nuit, aller de ma case à la sienne. Le lendemain, l'argent manquait. »« Parfaitement. » »« Il l'avait pris, voilà. » Et avec un rire imbécile qui puait la boisson. « Il y a comme ça des choses. » ajouta-t-il. Je crois que c'est Dieu qui les a faites. Ainsi s'achève Magie africaine, par Alfred Edward Woodley Mason.